15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous, bonjour Anissa.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Merci d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Sommes-nous tous hyperactifs? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Alors qu'on a tous l'impression de l'être un peu, c'est quoi l'hyperactivité chez les enfants, chez les adultes? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça se soigne? Et si oui, comment? On y répond avec le docteur Gabriel Val. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, pédopsychiatre. Vous présidez l'association de recherche pluridisciplinaire sur l'échec scolaire. Et vous publiez Les adultes hyperactifs aux éditions Audit Jacob. Vous allez tout nous expliquer. Bien sûr, on attend vos témoignages sur le sujet. Est-ce que vous êtes hyperactif? Est-ce que vous vous soignez? Appelez-nous 3921. N'hésitez pas à réagir à ce que l'on dit sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence comme d'habitude par quelques chiffres. 4 à 6% des enfants et 3 à 5% des adultes sont concernés en France par l'hyperactivité. 5% des adultes souffrant de TDAH, c'est-à-dire des troubles de déficit de l'attention dans leur enfance, présentent toujours ces mêmes troubles à l'âge adulte. Il existe 20 molécules pour soigner la dépression, 15 pour la psychose, 15 pour l'anxiété, mais pour l'hyperactivité, un seul médicament en France. On va en reparler avec le docteur Val. Enfin, en 2013, une étude a révélé que la vente de boîtes de Ritaline, vous savez, c'est ce médicament qui est prescrit en cas d'hyperactivité, a bondi de près de 70% en 5 ans et le nombre d'utilisateurs chez les moins de 20 ans a augmenté de 114%. Pourquoi tant? On va essayer de le comprendre. Mais d'abord, pour vous, c'est quoi l'hyperactivité? On écoute vos réactions.
Bah, c'est des personnes qui ont toujours besoin d'être en activité, qui sont très avides de plein d'expériences en même temps.
Bah, c'est tout le temps en activité, tout le temps. Faire 10 000 choses.
C'est ne pas savoir s'ennuyer, par exemple. Prendre le temps de s'ennuyer.
Moi, je me considère pas comme hyperactive, mais dans mon entourage, j'en connais. Donc effectivement, ça peut être aussi les adultes.
Donc les personnes qui ne peuvent pas se détacher de leur travail, qui sont toujours dans l'action.
Impossible de rester en passe, impossible de maintenir sa concentration.
Il y a certaines personnes où je pense que c'est une pathologie, donc vraiment un problème qui peut être handicapant pour la vie au quotidien.
Non, mais il y a des côté super positif à être actif. Après, dans l'hyperactivité, c'est il y a le manque d'attention, il y a un côté speed, quoi, qui est à mon avis pas contrôlé.
Moi, je suis super active, hyperactive.
Je suis obligée de faire toujours quelque chose. Je peux pas m'arrêter et du coup, les nuits sont courtes en fait.
C'est compliqué pour les autres peut-être, pour la famille, oui, sûrement. À suivre, c'est pas évident.
Moi, je vis en province, donc l'hyperactivité, c'est un virus qui ne nous touche absolument pas. Si on a choisi la province, c'est parce qu'on veut vivre plus lentement. Ah non, moi, je peux rester des heures à contempler les Pyrénées depuis chez moi.
J'aime bien ce dernier témoignage recueilli par Sébastien Bordenave comme d'habitude. Alors on voit bien, docteur Val, en écoutant ce micro-trottoir, que la définition de l'hyperactivité n'est pas tout à fait la même pour tout le monde. Alors dans ce livre, vous dites qu'il y a de toute façon un débat sur cette définition. Donc moi je vous pose la question de but en blanc, c'est quoi l'hyperactivité ?
Alors en effet, le terme même d'hyperactivité mérite d'être précisé. C'est un terme un peu encombrant, peut-être même un peu trompeur, parce qu'il ne semble désigner qu'une dimension, c'est-à-dire l'activisme, l'hyperactivité, etc. Alors qu'en réalité, ce trouble concerne au moins trois dimensions. Le trouble de l'attention, le déficit de l'attention et de la concentration, l'agitation en effet, qui peut être un peu synonyme d'hyperactivité, et l'impulsivité. Mais le paradoxe, c'est que l'agitation est un symptôme qui n'est pas impératif au diagnostic. Le diagnostic, pour l'essentiel, se fonde sur le déficit de l'attention, sur le déficit de la concentration et sur l'impulsivité. Donc l'hyperactivité n'est pas le fait d'être très actif, parce que ça finalement c'est très positif, c'est le fait d'être désordonné dans l'action, d'être impulsif, de manquer d'endurance, de se précipiter sur toute action et de ne pas savoir terminer celles qui sont en cours. C'est donc une forme de vie qui est en quelque sorte agitée au mauvais sens du terme et pas active au bon sens du terme.
Donc si je dis on est tous hyperactifs, je me gourre.
Alors oui.
Parce qu'on a tous le sentiment, d'abord le mot est très à la mode, hein, oui. Et on a tous le sentiment de l'être finalement. Quand on travaille à Paris en province, je pense, on a tous ce sentiment-là.
Si vous donnez la définition de l'hyperactivité au sens non médical, c'est un bonheur. Si vous lui donnez une dimension un peu psychologique ou médicale, dans ce cas-là, c'est une entrave, c'est quelque chose qui encombre l'existence au quotidien, qui peut être par exemple responsable d'échecs scolaires, d'échecs professionnels, d'instabilité sentimentale et de désordre quotidien.
On va en reparler de toute façon de tout ça. Donc pour résumer ce que vous venez de dire, un hyperactif, c'est en fait quelqu'un qui à la base a des troubles de l'attention.
C'est la raison pour laquelle on préfère, lorsqu'on essaye d'être très précis, utiliser le terme de TDAH qui signifie TDA, trouble avec déficit de l'attention. Et avant le H, il y a une petite barre qui signifie avec ou sans hyperactivité. Qui désigne très explicitement le symptôme prévalent pour le diagnostic, c'est-à-dire le déficit de l'attention, et le symptôme accessoire, c'est-à-dire l'hyperactivité ou l'agitation.
Compris. Alors vous dites qu'on peut relever des symptômes communs entre l'hyperactivité et la dépression.
Oui et non.
Oui,
c'est-à-dire que c'est une question extrêmement complexe. Bien évidemment, dans la dépression, il peut y avoir, par exemple, de l'agitation ou de la distractibilité. Mais dans la dépression, c'est quelque chose qui est contemporain de la dépression, donc qui a un début et une fin, alors que dans l'hyperactivité, cela répond à un trouble de la personnalité constant qui va, en principe, de l'enfance à l'âge adulte.
Alors, comment savoir si l'on est hyperactif ? Dans ce livre, vous tentez d'y répondre, hein, vous faites des petits questionnaires. C'est évidemment la question qu'on se pose tous. Donc, il y a à la fois un questionnaire d'auto-évaluation du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis, il y a le questionnaire qu'on pose. Voilà. Alors, dans le questionnaire d'auto-évaluation, il y a 18 questions. Alors, par exemple, oubliez-vous souvent vos rendez-vous ou vos obligations ? Est-ce que vous remuez souvent les mains et les pieds lorsque vous devez rester assis pendant un temps prolongé ? Il y a plein de questions comme ça. Avez-vous des difficultés à vous détendre ? Parlez-vous, alors ça, on va tous soit se reconnaître des gens qu'on connaît, parlez-vous souvent de façon excessive lors de rencontres sociales ? Anissa, je vous vois me regarder à chaque question.
J'ai l'impression que je pourrais dire oui à chaque question.
Alors, est-ce que si on a oui aux 18 questions, est-ce que ça veut dire que il faut aller consulter?
Alors, c'est un auto-diagnostic préalable à un vrai diagnostic. Bien évidemment, à la lecture de ces questions, on ne peut pas décider pour soi-même. Ce serait trop subjectif si on est hyperactif ou si on ne l'est pas. Et si on mérite, si j'ose dire, de s'en acquitter ou si au contraire, il faut mieux consulter. Mais en effet, ces questions ont un caractère assez significatif. Alors vous dites qu'on pourrait tous s'y retrouver. Écoutez, moi, dans ma pratique, c'est pas tout à fait ce que j'observe. Il y a quand même à la lecture de ces questions, des gens qui disent « mais c'est tout à fait moi ». Et d'autres qui apportent des nuances, se retrouve de façon occasionnelle, etc. Alors n'oublions jamais que pour tout diagnostic, s'il n'est pas encombrant, c'est un bonheur. Si un hyperactif s'épanouit avec ses inconstances, sa distractibilité, son activisme, son débordement, tant mieux pour lui. Si on est, par exemple, je ne sais pas moi, animateur de radio et qu'on a besoin de se bousculer toutes les 5 minutes...
De terminer souvent les phrases de vos interlocuteurs sans leur laisser le temps de finir.
Vous venez de le faire, là.
Exactement.
Et je vous pardonne.
À dessein.
Voilà. Mais en tout cas, je n'en tirerai aucune conclusion diagnostique, je vous rassure.
Alors, il y a aussi le questionnaire de TDAH chez l'adulte, questionnaire préalable au diagnostic. Donc là, questionnaire fait par un médecin. Alors, par exemple, écoutez, si vous êtes chez vous, si vous voulez savoir, parmi les questions, il y a « Prenez-vous souvent des décisions de façon impulsive ?»« Commencez-vous souvent des activités sans lire ou écouter attentivement les instructions ?» Ça peut arriver souvent. « Conduisez-vous trop vite ?» Alors là, je me suis demandé, « Conduisez-vous trop vite ?» Quel rapport avec...
Quand vous êtes distrait et impulsif, vous avez des problèmes de conduite. Et les statistiques sont tout à fait démonstratives. Les hyperactifs ont plus d'accidents que les autres. C'est pas dramatique, rassurez-vous. C'est pas 600%, mais c'est 35%, je crois, selon des statistiques scandinaves. Donc c'est un vrai problème de santé publique. C'est pas seulement un problème de coquetterie individuelle.
Anissa, là il y a 10 questions. Si vous voulez, je vous laisse le livre du docteur Val après l'émission.
Mais je vais le lire très attentivement. Et pour l'instant, j'ai dit oui à toutes les questions que vous avez posées.
Bon, alors on va faire une consultation pendant la pause musicale. Ça s'appelle Cake by the Ocean, DNCE. C'est sur Europe 1. À tout de suite.
Marion Ruggieri sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Europe 1. 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Qu'est-ce que l'hyperactivité ? Sommes-nous tous hyperactifs ? Voilà les questions que pose Marion Ruggieri à son invité cet après-midi sur Europe 1.
Le docteur Gabriel Val, psychiatre, pédopsychiatre, qui publie Les adultes hyperactifs aux éditions Odile Jacob, mais qui a aussi publié Les enfants hyperactifs chez Que sais-je, chez Puf, je sais pas comment on dit, la collection Que sais-je de Puf, je vais y arriver. Voilà. Et alors c'est justement d'enfants dont on va parler maintenant. Chez les enfants, on a l'impression que le concept d'hyperactivité n'existait pas il y a encore 30 ans, je me trompe. À l'époque, on disait d'un enfant qu'il était intenable, qu'il était turbulent, mais pas hyperactif. Ça remonte à quand ce terme ?
Le terme lui-même remonte à plusieurs décennies, mais la France dans ce domaine est extrêmement en retard. Hein. Par exemple, si on prend juste un critère un peu objectif, le médicament dont vous disiez en introduction qu'il est en inflation en France, mais c'est parce qu'on part de très loin. Il a été découvert en 1945 et nous n'en disposons en France que depuis 20 ans. Donc pendant des décennies, ce médicament n'était pas accessible en France.
Alors je précise, donc il s'agit de Ritaline, c'est un médicament qui est prescrit en cas d'hyperactivité. La vente a bondi de près de 70% en 5 ans. Chez les moins de 25 ans, de 20 ans, c'est 114%. Est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que maintenant, il n'y a pas, en fait, autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un surdiagnostic d'hyperactivité ? J'ai l'impression que maintenant, dès qu'un enfant est un peu turbulent, on dit qu'il est hyperactif.
Si vous me permettez, là, je vais faire un développement un petit peu long.
Je vous en prie, on est là pour
ça. Bien comprendre cette dimension-là. Il y a trois regards sur l'hyperactivité. Il y a un premier regard, c'est le regard, on va dire, de l'éducation nationale, le regard de certains parents. L'hyperactivité est une faute, c'est-à-dire l'enfant est accusé de ne pas faire d'efforts pour être attentif. L'enfant est accusé d'être immature. On présente donc un symptôme en faute. On l'accuse d'une faute alors qu'on devrait le soulager d'un symptôme.
Un problème de discipline. Quoi.
Donc voilà, un problème de discipline, de maturité, de motivation, etc. etc. Donc le classique bulletin scolaire de l'enfant hyperactif, ce sont des reproches. Et il est donc, d'une certaine façon, puni pour cela. Le second regard, c'est le regard de la pédopsychiatrie à la française, c'est-à-dire un regard psychanalytique qui fait des parents les responsables de toute difficulté chez l'enfant. Donc la consultation à la française, elle est classique, à savoir, on interroge les parents sur les enfants, ensuite on interroge les parents sur les parents, et on fait un lien de cause à effet. Donc les parents sont trop laxistes, ou trop ceci, ou trop cela. Et le troisième regard, c'est de considérer ce trouble comme un trouble biologique. C'est ma conviction personnelle, elle est minoritaire en France, mais en tout cas, c'est ma conviction. C'est un trouble biologique qui est magnifiquement documenté par des centaines d'études, c'est donc pas un trouble psychosocial. C'est un trouble biologique et par conséquent, il est légitime, lorsque l'on a cette conviction que ce trouble est biologique, de proposer un traitement biologique, c'est-à-dire un médicament. Il y a une certaine légitimité, je dirais une certaine rationalité dans la prescription de ce médicament. De surcroît, le médicament est objectivement, je crois, très efficace, alors que toutes les autres thérapies le sont, et ce sera un euphémisme de le formuler ainsi, beaucoup moins.
Alors pour reprendre ce que vous venez de dire, déjà, quand un enfant a un mauvais bulletin, il n'est pas forcément hyperactif.
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Vous dites... En France, 5% des enfants seraient touchés par l'hyperactivité. On est d'accord, donc, que l'hyperactivité, comment déceler cette hyperactivité ? C'est là aussi un trouble de l'attention, une impulsivité, c'est le même mélange dont vous nous parliez en début d'émission ?
Il y a des formes mixtes, agitation, impulsivité, inattention, des formes avec inattention prédominante, donc ce sont surtout des enfants dans la lune, ce sont les moins diagnostiqués parce qu'ils ne répondent pas à l'image d'épinal de l'hyperactivité.
Justement, oui,
et puis des enfants qui sont particulièrement agités, qui ont moins de problèmes de concentration. C'est une rareté. Donc, il y a plusieurs formes cliniques, mais pour simplifier, on trouve ce trio agitation, inattention, impulsivité avec un accent qui doit être mis sur l'inattention, qui est quand même le trouble central. Alors, comment faire le diagnostic ? Ben, c'est simple. Il faut évidemment une certaine expérience clinique, donc c'est quelque chose qui doit être réservé à des psychiatres ou à des psychologues ou à des médecins expérimentés. Il y a des questionnaires qui permettent, il y a la lecture des bulletins scolaires, il y a le récit parental, il y a le récit enseignant. Et il y a un petit critère auquel j'attache personnellement beaucoup d'importance, c'est depuis, toujours et en tout milieu. Parce que l'hyperactivité, c'est pas quelque chose qui doit être conjoncturel, qui doit être circonstanciel. C'est quelque chose qui doit véritablement s'intégrer dans la personnalité de l'enfant et de l'adulte. Bien sûr, on n'est pas toujours hyperactif en toutes circonstances, mais les circonstances, on peut bien les déceler. Il y a deux, trois choses qui délivrent de l'hyperactivité. Premièrement, la passion. Deuxièmement, la nouveauté. Et troisièmement, l'extrême crainte. Donc, il y a des enfants qui, pendant une année, s'ils sont extrêmement craintifs à l'égard de tel ou tel maître ou maîtresse, peuvent éventuellement s'assagir apparemment. S'assagir pour ce qui est de l'agitation, mais pas forcément s'assagir pour ce qui est de l'inattention, qui, elle, est presque incontrôlable.
Pardon, je vous interromps, c'est pas pour être hyperactif, mais donc, il y a, vous dites, la crainte.
La passion,
donc
la nouveauté
s'il trouve
aussi
quelque chose qui le passionne, un peu comme on peut voir parfois avec les TOC, ça le délivrera de cette hyperactivité.
C'est naturellement une considération un peu générale.
Ça peut être le sport, ça peut être le théâtre, ça peut être le dessin, enfin une activité quoi, qui le soustrait à ça.
Les enfants hyperactifs ont du mal à lire. Mais s'ils trouvent un livre qui les passionne, ils se plongeront avec peut-être encore plus d'acuité que les autres. Parce que les hyperactifs sont à la fois capables de distractibilité, mais aussi de passion extrême. Donc par exemple, un chercheur ou un écrivain ou tout autre métier, lorsqu'il est passionné par quelque chose, il peut même être peut-être plus passionné que d'autres et donc plus concentré que d'autres. Il peut y avoir une espèce de phénomène paradoxal d'hyperconcentration pour des activités passionnantes.
Un peu comme certains syndromes d'Asperger.
Oui, là, on s'embarque
on
dans
s'embarque
une direction
dans chose,
un peu compliquée.
Mais pour rassurer les parents d'enfants hyperactifs, vous donnez à ce propos de passion une liste non exhaustive de grands noms ayant connu une enfance turbulente et une scolarité incertaine dans votre livre. Il y a quand même parmi eux, je ne sais pas comment vous avez eu les bulletins scolaires, Christophe Colomb, Mozart, Antoine de Saint-Exupéry, Napoléon, Alexandre Dumas, Louis Pasteur, Einstein, autant dire du lourd. Il ne faut pas s'inquiéter.
Alors, je n'ai pas évidemment lu les bulletins scolaires de toutes ces personnalités, mais néanmoins, on peut découvrir leur enfance par des biographies, par des autobiographies, et on s'aperçoit souvent qu'ils ont eu un peu ce profil. Mais comme ils avaient un immense talent, et peut-être la capacité tout simplement d'être passionnés, et également la possibilité d'une amélioration en cours d'existence, on a un pourcentage qui est un peu supérieur chez l'enfant que chez l'adulte, parce qu'il semble que certains adultes, c'est une minorité, sans des livres en cours de vie.
D'accord, donc un enfant hyperactif n'est pas forcément un adulte hyperactif.
Non, mais on peut dire presque le contraire, c'est-à-dire un adulte hyperactif a nécessairement été hyperactif dans l'enfance, sauf que depuis quelques semaines, de nouvelles études semblent indiquer que l'on puisse éventuellement se découvrir hyperactif à l'âge adulte, sans que nécessairement on l'ait été pendant l'enfance. Mais ce sont une ou deux études qui ont montré cela, donc là c'est vraiment encore du registre du spécialiste.
On va en reparler dans un instant, vous restez avec nous, et puis vous allez nous dire comment soigner l'hyperactivité. Ce sera juste après le billet de Benjamin Muller, qui lui est un peu le contraire d'un hyperactif, il va nous dire si ça existe. À tout de suite sur Europe 1.
Marion Ruggieri, de 15h à 16h, sur Europe 1. Europe 1. 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et aujourd'hui, on parle de l'hyperactivité avec votre invité, Marion Ruggieri, qui est le docteur Val. Et puis, nous accueillons Benjamin Muller, hyperactif bien connu de nos services. Ça va bien, Benjamin?
Bonjour, je préfère être hyperactif qu'hyper mou, madame.
Non, mais le contraire d'hyperactif, c'est bien aussi, vous nous disiez, docteur Val.
C'est la capacité d'être endurant, la capacité de travailler sur la distance, d'accomplir des projets,
voilà.
Etc.
Prenez-en de la graine, Benjamin.
De rester concentré, très bien.
Alors Benjamin, vous vous demandez si quand même cette société n'aurait pas tendance à nous rendre un peu tous hyperactifs.
Oui, c'est sans doute quelque chose qui touche plus ou moins tout le monde, les multi-sollicitations du quotidien que l'on doit à nos nouvelles technologies. Ça y est, la médecine s'est penchée dessus et oui, ces nouvelles technologies ont bien des conséquences. Des troubles neurologiques, on va y revenir, mais d'abord, de quoi on parle ? Eh bien c'est simple, imaginez vous êtes au bureau et vous vous dites « voilà, pour la prochaine heure, il faut que je finisse tel dossier, personne ne doit me déranger ». Ah, mon patron, je décroche. Voilà, c'est bon, il voulait juste une info, je reprends mon boulot. Ah, SMS de mon père, je vais le lire, on sait jamais, c'est peut-être urgent. Devine quoi, j'ai deux places pour France-Roumanie au Stade de France. Mais c'est bon ça, wouhou, je vais aller à l'Euro. Trop bien, je vais à l'Euro. Allez, je me reconcentre. Donc, ce dossier, alors... Ah, un push. Push de qui ? Du Parisien.fr. Qu'est-ce que ça dit ? Nabila condamnée à de la prison ferme. Oh, c'est pas possible, la pauvre en prison quand même, c'est dur. Ça valait bien un push, tiens, je vais le tweeter. Bon, donc je reprends avec ce dossier, là... Ah, là, c'est ma femme, je vais décrocher, faudrait pas qu'il y ait un problème avec les enfants. Oui, oui, allô ? Oui, oui, ça va. Mais oui, je sais, il m'a dit deux places pour France-Roumanie, c'est trop bien, je suis trop content. Oui, oui, bon, on en reparle ce soir, j'ai du boulot, là. Ah, nouveau push, les prévisions de croissance à la baisse. Oh non, c'est dur pour la croissance, pauvre François Hollande. Bon, je me reconcentre. Donc, ce dossier, il faut que je réussisse à synthétiser le projet budgétaire, sachant qu'on n'a pas pris en compte la dépense de carburant. Ah, un mail. Ah, mais non, c'est une alerte de seloger.com. Quoi, un appartement 4 pièces à vendre à Paris, 70 mètres carrés pour seulement 1 million d'euros. Quelle aubaine ! Faut que j'appelle, faut que je visite l'appartement, etc. etc. Tout le monde a déjà vécu ça. En fait, tout le monde vit plus ou moins ça au quotidien à partir du moment où vous avez ce satané téléphone portable. Alors, un psychiatre américain s'y est intéressé le plus sérieusement du monde. Ce psychiatre s'appelle Ed Hallowell et a nommé la chose « Lady T » en anglais. Bon, je vous le traduis en français, ça donne le trait de déficit de l'attention que, dit-il, on peut comparer aux troubles d'hyperactivité, mais donc provoqués par ces nouvelles technologies. En clair, On a les mêmes symptômes qu'un hyperactif, impossibilité de se concentrer, manque de patience, distraction, impulsivité, etc. Alors qu'on n'est pas hyperactif, et il explique que ces symptômes ont des conséquences sur notre travail, car ça empêche, dit-il, de clarifier les priorités, de prendre des décisions intelligentes et de gérer correctement son temps. Ceci explique peut-être cela. En clair, on met tout sur le même plan, les dossiers à traiter, mes places pour l'euro et Nabila qui va en tôle. On y consacre à chaque fois une minute, mais avec la même intensité, alors qu'à l'évidence, on se fout pas mal que Nabila aille en prison. Et les places pour l'euro, j'aurais pu attendre ce soir pour m'en réjouir. On appelle ça être surchargé d'informations, ce qui peut entraîner une multitude d'urgences mineures à gérer. On n'a plus les capacités pour traiter bien, comme il faut, le gros dossier de la journée. Alors ce psy donne quelques conseils pour sortir de cette spirale. Déjà, on arrête d'être l'esclave de nos smartphones, ce qui est facile à dire, mais pas à faire. Quand tu as un dossier à traiter, tu éteins ton téléphone portable. Et il fallait y penser. Et ensuite, il faut réapprendre à réfléchir. Il explique que c'est la base. Posez-vous, sans téléphone dans les mains, réapprenez à réfléchir. Vaste programme. Docteur Val, j'ai une question. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut qu'on réapprenne à réfléchir.
Oui et non. Ah. Oui, parce que dans votre exposé brillant et amusant, il y a un
et
point
très travaillé,
faut...
comme on l'apprend.
Il faut préciser une chose, c'est que l'hyperactivité, telle que j'essaye de la définir, c'est un facteur de personnalité. C'est un élément de la personnalité qui est constant et qui est indépendant de son environnement. Maintenant que la vie moderne, par sa bousculade, par sa multitude de sollicitations, en effet, puisse donner un syndrome like, en quelque sorte... Ça ne fait pas de doute. Mais on peut y prendre plaisir à être bousculé en permanence. Ça peut aussi donner l'impression
que
la vie est plus intense.
Pour le cerveau, ça peut être stimulant de passer du coq à l'âne, de Nabila à l'euro, etc.
Donc, selon les circonstances, on peut s'offrir une méthodologie, un cadre de travail qui puisse s'adapter aux ambitions. Parfois, on a besoin de se concentrer. Parfois, on a besoin, au contraire, d'être un peu distrait, d'être bousculé.
Et par exemple, vous qui consultez avec des patients, quand vous les recevez, vous éteignez le portable, les mails et tout ça? Ou pas.
J'ai pas d'ordinateur dans mon bureau, mais j'ai en effet un téléphone, enfin même plusieurs téléphones sur mon bureau qui peuvent me distraire.
Merci beaucoup, Benjamin. Docteur Val, vous restez avec nous dans un instant. Est-ce que l'hyperactivité, ça se soigne? Et si oui, comment? Mais avant ça, on part sur les cours de Roland Garros où Europe 1 est en direct.
Europe 1, Roland Garros 2016.
Oui,
avec Christophe Lamarre.
Un rayon de soleil dans la grisaille de Roland-Garros. Ce rayon de soleil, il est localisé sur le court 17 où la Française, et qui bénéficiait d'une wild card, Myrtille George, s'est qualifiée pour son premier Roland-Garros. Eh bien, elle disputera le deuxième tour. Elle a battu l'Américaine Christina McCail en 1h54, 3-7, 6-7, 6-0, 6-3. Une performance pour la 205e mondiale qui affrontera au prochain tour soit la Slovaque Chmieldova, soit l'Espagnol et tête de série numéro 4, Garbine Muguruza. Entre les deux joueuses, on en est à une manche partout. Côté français, toujours pour Jérémy Chardy, ça va un petit peu mieux puisqu'il y a une manche partout, mais surtout il mène 5 jeux à 4 dans la troisième manche face à l'Argentin Leonardo Mayer. Sur le court numéro 6, ça va beaucoup mieux pour Adrian Manarino qui mène 2 manches à 1 face au Kazakh Mikhail Kukushkin. Et puis sur le court central, c'est très compliqué pour le tenant du titre Stan Wawrinka puisqu'il est mené 2 manches à 1 face à Lucas Rosol, le Tchèque. Un Stan Wawrinka qui a beaucoup de difficultés à rentrer dans ce tournoi. Il ne parvient pas pour l'instant à trouver la bonne longueur de balle face à un joueur qu'il connaît bien. Ils se sont affrontés ces deux-là la semaine dernière en demi-finale du tournoi de Genève et Stan Wawrinka avait pris le meilleur. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Après un petit peu plus de 2 heures de jeu, eh bien c'est Lucas Rosol, le Tchèque, qui mène 2 manches à 1 face au tenant du titre Stan Wawrinka.
Affaire à suivre donc pour le tenant du titre. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure à 16h dans le flash. Tout à l'heure, Christophe Lamarre, toujours en direct des cours de Roland-Garros. Restez avec nous. On parle d'hyperactivité cet après-midi sur Europe 1 avec Mario Ruggieri et son invité. Et voici Claudio Capeo sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et jusqu'à 16h, nous vous aidons à mieux comprendre et découvrir l'hyperactivité grâce à votre invité Mario Ruggieri. Le psychiatre et pédopsychiatre Gabriel Val qui publie Les adultes hyperactifs aux éditions Odile Jacob. Alors docteur Val, déjà, est-ce qu'on sait d'où ça vient l'hyperactivité? Est-ce que c'est génétique?
Comme je le précisais tout à l'heure, les opinions ne sont pas unanimes. Donc il y a...
Vous êtes minoritaire, vous nous avez dit.
Voilà, on peut dire ça. Enfin, en France, je suis minoritaire. À l'échelle de la planète, je suis probablement très conforme et très majoritaire. Donc... il y a de façon tout à fait démonstrative, il y a, je crois, des études qui ont montré que ce trouble est d'origine génétique pour une part. Mais on a aussi très largement documenté un autre domaine qui est la néonatalogie. Par exemple, si on a un petit point de naissance, une naissance avant terme ou un accouchement difficile, le risque de 5% peut passer, selon les études, à 25%, 30% ou 35%. Donc on a clairement une dimension biologique de ce trouble.
Donc
génétique,
héréditaire.
Mais pas seulement. Génétique, mais pas seulement, puisque, oui, donc héréditaire, mais il peut y avoir simplement un accident de naissance, un accouchement difficile, une hypoxie néonatale ou un petit point de naissance. Très explicitement, c'est un facteur de risque, non obligatoire,
oui, oui, oui,
bien évidemment. Je voudrais vous raconter une étude. Ce sont des chercheurs, de mémoire, je crois que ce sont des chercheurs anglais, qui ont voulu démontrer justement que l'hyperactivité était en lien avec les circonstances psychosociales. Ils ont donc fait des études sur des centaines d'enfants selon le décor social. Ils ont partagé en trois familles. Des familles blanc-bleu, où il n'y avait pas de difficultés particulières, des familles où il y avait des problèmes ordinaires, par exemple divorce ou chômage, et des familles où il y avait des problèmes apocalyptiques, par exemple incarcération de l'un des deux parents, violence conjugale, violence parentale, etc. Eh bien, le pourcentage est à peu près le même. Donc, il semble bien que les facteurs psychosociaux soient peu influents en comparaison des facteurs biologiques.
Alors maintenant, pour soigner l'hyperactivité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a déjà la possibilité médicamenteuse. Alors, c'est intéressant, dans votre livre, vous dites qu'il y a près de 20 molécules pour la dépression, 15 pour les psychoses, 15 pour l'anxiété. Mais pour l'hyperactivité, il y a un seul médicament en France.
Non, plus précisément, il y a une seule molécule, mais elle est déclinée en 4 médicaments, parce que 4 laboratoires concurrents, en quelque sorte, se partagent le marché de la France. Alors, il y a d'autres médicaments. Et dans les pays européens, il y a la possibilité d'avoir accès à d'autres médicaments. Alors, ce serait bien d'avoir une certaine diversité pour beaucoup de raisons, parce que tous les médicaments ne sont pas efficaces pour tout le monde, mais nous avons, disons, le meilleur et à l'échelle internationale, le méthylphénidate, c'est le nom de la molécule qui se décline en 4 médicaments dont le plus connu et le plus ancien est en effet la Ritaline, très efficace sur ce trouble, en tout cas pour la majorité des patients.
Autre possibilité, c'est les psychothérapies, les thérapies et autres thérapies. Comment est-ce qu'on procède?
La psychothérapie permet d'améliorer les conséquences du trouble, mais pas le trouble lui-même. Ça, il faut bien clarifier ça. C'est-à-dire que les psychothérapies ne permettent pas fondamentalement d'améliorer le trouble de l'attention. En revanche, ils permettent de mieux se comprendre. Par exemple, de mieux
vivre
l'image
avec.
Que nous avons de nous peut être sacrifiée si, par exemple, l'hyperactivité a entraîné un échec scolaire. Mais si on prend conscience... Alors, il s'agit plus là de psychoéducation que de psychothérapie au sens strict. Si on prend conscience que les échecs que l'on a dans la vie ne sont pas liés à une absence de talent, de courage, d'ambition, de volonté, mais simplement à un problème de distractibilité, cela permet d'avoir un regard sur soi, à la fois plus juste et peut-être plus réparateur.
Bien sûr, mais vous dites que justement, en France, on n'a pas cette culture-là de la psychoéducation.
Oui, c'est en effet quelque chose qui est une survivance, probablement, je dirais presque du latin de Molière, c'est-à-dire que la relation entre le médecin et le patient se fonde sur la confiance, mais elle ne se fonde pas toujours sur le partage du savoir. Et la psychoéducation, c'est donner au patient la capacité de comprendre, de connaître ses troubles avec presque autant de clarté qu'un médecin pourrait le faire.
Le résultat, et vous le disiez à l'instant, c'est que du coup, il y a beaucoup d'adultes qui viennent vous voir, ou même d'ados, et qui vous disent « mais si j'avais su que c'était lié à ça, je me serais soignée plus tôt ». Il y a une espèce de, quand même, de méconnaissance en fait, du sujet quand même. Vous parliez tout à l'heure des molécules, on a l'impression qu'il n'y a pas tant de recherches que ça sur cette pathologie, et qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance, et cette émission en est la preuve. Nous, on pensait que c'était être toujours actif, alors qu'en fait, ça n'est pas forcément le cas. Il y a quelque chose à faire là, non ?
Il m'arrive parfois d'être un tout petit peu fâché, presque, je dirais, lorsque j'entends parler de surdiagnostic, parce que pour ce qui me concerne, je pense que nous sommes en sous-diagnostic. Je pense qu'il y a encore des enfants sacrifiés, simplement parce que pas un enseignant, pas un psychologue scolaire, pas un médecin scolaire, pas un psychiatre n'a su déceler ce trouble, et on peut laisser comme cela traîner des années un enfant alors que peut-être un médicament permettrait de l'en délivrer.
Donc pour vous, c'est pas du tout un surdiagnostic comme je le pensais en commençant cette émission, c'est-à-dire qu'on dit de tous les enfants agités, bah tiens, il est peut-être hyperactif, c'est au contraire un sous-diagnostic et il faut voir justement, il faut ne pas hésiter à regarder, et c'est d'autres symptômes qu'il faut regarder.
Il faudrait en effet que, à la fois pour ce qui est des médecins et des psychiatres, il y ait vraiment une claire conscience que ce trouble a beaucoup d'importance. Et je dirais aussi, alors on déborde un peu le sujet médical, mais à mon sens, il n'y aura pas de possibilité de vrai progrès dans le domaine de la lutte contre l'échec scolaire si on n'intègre pas cette dimension. Pour ce qui me concerne, les enseignants devraient être, avant d'être spécialistes de leur spécialité, c'est-à-dire de l'anglais, de l'allemand, des maths, ils devraient être spécialistes de l'échec scolaire. Et l'hyperactivité, le trouble de l'attention, représente la première cause d'échec scolaire et représente le motif principal de consultation en psychiatrie de l'enfant tout venant. Mais ce n'est pas parce qu'il représente le premier motif de consultation qu'il correspond au premier diagnostic.
Merci, vous restez avec nous. Et vous, qu'en pensez-vous? On écoute vos témoignages, vos réactions, vos questions au 3921 sur la page Facebook de l'émission. Et puis bien sûr, via Twitter, hashtag P2CE. C'est juste après une petite pause musicale. Catch and Release de Matt Simon sur Europe 1.
Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1. Europe 1, 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Et tous les jours, juste avant 16h sur Europe 1, juste avant de retrouver Cyril Hanouna et toute l'équipe des Pieds dans le Plat, c'est vous qui avez la parole, vos réactions, vos témoignages et vos questions, surtout à cette émission consacrée à l'hyperactivité, Marion.
Alors, via Twitter, Chris nous dit « Mon fils est hyperactif, j'ai eu beaucoup de mal à le faire admettre à ses professeurs qui connaissent mal la maladie. » Olivier, pareil, nous dit « Enfant hyperactif, exclusion du système scolaire, profs qui ne veulent pas comprendre, du coup, année du bac très difficile. » à gérer pour tous. Et puis, il y a aussi des questions via europe1.fr pour vous, docteur Val. Boris nous dit, vous avez évoqué le fait qu'un enfant puisse être hyperactif tout en étant dans la lune. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est un enfant dans la lune et s'il est hyperactif, quels sont les symptômes?
Alors, je réponds déjà à la première question. En effet, les enseignants n'ont aucune formation dans ce domaine, donc il ne faut pas leur en vouloir s'ils ne connaissent pas ce trouble. Et d'ailleurs, les enseignants n'ont souvent aucune formation dans le domaine de l'échec scolaire. Par conséquent, ils sont souvent extrêmement démunis. Absolument. Pour ce qui est donc d'être dans la lune, donc c'est en effet le symptôme le plus cardinal, si on peut dire, de l'hyperactivité. Par conséquent, c'est un point qui peut aider au diagnostic, en tout cas aider à consulter pour un diagnostic. Le problème, c'est que comme l'image de l'hyperactivité est un peu déformée, elle donne l'impression qu'on va avoir affaire uniquement à des agités et des bougillons, si un enfant est seulement dans la lune, on se dit « Eh ben non, ça n'a rien à voir ». Et en fait, si. Le fond de l'affaire de l'hyperactivité, c'est pas l'hyperactivité, c'est le trouble de l'attention, donc c'est l'enfant qui est dans la lune, qui est constamment ailleurs et qui a du mal à se concentrer.
Question de Jérôme, toujours via europe1.fr. Est-ce que les filles et les garçons sont davantage touchés?
Alors oui, les garçons sont plus atteints de ce trouble que les filles, dans une proportion de 3 à 4 garçons pour une fille.
Mais comment on explique ça, pardon?
Ah, on l'explique par le fait que d'une façon générale, alors pour répondre à votre question, je n'en sais rien, c'est plutôt un mystère, mais d'une façon générale, en pédopsychiatrie et même en médecine, en général, les garçons sont plus touchés que les filles. Voilà, on est certainement un peu plus vulnérable pour ce qui est des extrémités, c'est-à-dire à la fois pour être peut-être dans certains domaines meilleurs, mais aussi dans d'autres domaines pour être pire. En revanche, alors c'est un mystère que d'ailleurs peut-être vous contribuerez à résoudre, ce rapport se normalise à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il y a presque autant de femmes hyperactives que d'hommes hyperactifs. Alors, les explications, elles sont pour l'instant un peu encombrées de validité. La première explication, c'est de dire que les filles étant plutôt discrètes dans leur façon d'exprimer l'hyperactivité, on le diagnostique moins dans l'enfance. Comme elles sont un peu plus appliquées, comme elles ont un peu le goût du travail bien fait, elles compensent un peu par leur nature de fille. Et chez la femme est confrontée souvent à une double occupation, c'est-à-dire à la fois professionnelle et familiale. Ce qui fait qu'elles sont souvent dépassées et que là, l'hyperactivité pourrait éventuellement exploser en quelque sorte dans ses conséquences. Mais tout cela reste un peu, pour l'instant, hypothétique.
Mystérieux. Alors Raphaël nous a appelé au standard, 43 ans. Il nous dit « Mon fils est atteint de TDAH, il a 16 ans. Est-ce qu'il faut maintenir le traitement chimique ?»
Le traitement doit être maintenu s'il est efficace, et c'est très facile de s'en rendre compte, il suffit d'arrêter quelques semaines ou même quelques jours parfois, de comparer avec et sans traitement, et ainsi en général on a la réponse.
De se faire une idée. À partir de quel âge et combien de temps il faut traiter un enfant hyperactif ?
C'est un traitement pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne prescrit pas ce traitement pour trouver une solution médicale, mais pour trouver une solution par rapport à un problème concret. Comme ce traitement est strictement suspensif et pas du tout curatif, il faut le maintenir en principe au long cours et le plus souvent au long cours de l'enfance et de l'adolescence, c'est-à-dire tout au long de la scolarité. Pour l'âge adulte, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que pour aller vite, il y a un adulte sur 10 qui peut continuer à le prendre à l'âge adulte alors qu'il l'a commencé dans l'enfance. Pour ce qui est du début du traitement, là c'est très simple, là, il y a une réglementation très explicite, ce médicament ne doit pas être prescrit en France avant l'âge de 6 ans.
Le début de
la scolarité, absolument. Le début du CP, puisque quand même l'objectif premier de ce traitement, c'est moins d'apporter une solution pour les familles que d'apporter une solution pour la scolarité, même si les deux peuvent être magnifiquement compatibles.
Il n'y a pas, pardonnez-moi, mais je pense aux parents qui nous écoutent, il n'y a pas d'effet secondaire à ce traitement. C'est quand même angoissant l'idée de donner un traitement comme ça sur de nombreuses années à son enfant.
Il y a des effets secondaires. Je veux même vous dire que je les ai comptés pour le plaisir. Il y en a 120 qui sont répertoriés. Mais heureusement, la majorité des enfants ont peu ou pas d'effets secondaires. Donc par conséquent, ce traitement ne doit pas être redouté. Il faut juger sur pièce et non pas préjuger sur crainte. Le dilemme pour un parent, c'est d'essayer le traitement et d'apprécier de façon très concrète, très pragmatique, si le traitement apporte un vrai plus dans la vie de l'enfant. Et si les effets secondaires sont pâles, le plus souvent, c'est un bonheur.
Deux petites questions rapides. Via Facebook, Quentin nous dit, quel genre de spécialiste doit-on consulter pour diagnostiquer ou non une hyperactivité?
Alors, en principe, ce sont les psychiatres et les psychologues qui sont les plus à même de connaître ce trouble. Sauf que beaucoup de psychiatres et de psychologues n'ont pas mis dans leur panoplie diagnostique ce trouble, et que par conséquent, il faut s'assurer préalablement que l'on a bien affaire à un spécialiste qui s'intéresse vraiment à ce trouble et qui a une expérience et une volonté de permettre le diagnostic.
Et puis Yves, 57 ans, nous a appelé de la Selle-Saint-Cloud. Il nous dit pourquoi les tests de dépistage de l'hyperactivité sont si onéreux et ne sont pas remboursés. Alors, en deux mots, je sais que c'est assez technique.
Oui. Non, c'est assez simple à résumer. Enfin, je vais essayer en tout cas. Le diagnostic clinique est fait par un psychiatre. En principe, c'est pris en charge, comme tous les médecins, par la Sécurité sociale. En revanche, le diagnostic neuropsychologique sous forme de tests accomplis par des psychologues ne sont pas pris en charge, tout simplement, dans le privé en tout cas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de prise en charge de tout ce qui concerne la psychologie, que ce soit pour les psychothérapies ou pour les tests neuropsychologiques.
Anissa, sur Twitter, il y a un témoignage de Ricardo qui a l'air de bien connaître le sujet avec beaucoup d'abréviations. Vous allez peut-être pouvoir nous aider, docteur. Une fois que le diagnostic du TDAH est posé, les parents commencent à souffler. Si la MDPH l'accorde, l'AVS est une grande aide.
Alors, la MDPH, donc, c'est ce qu'on appelait avant la Cotoreb, donc c'est la maison pour aller vite des handicapés. Elle peut accorder une AVS, c'est-à-dire une aide de vie, une auxiliaire de vie scolaire qui permet d'aider l'enfant dans son parcours scolaire. Mais le plus important à savoir à propos de ce petit débat, c'est que souvent le médicament est suffisamment efficace pour qu'on puisse se passer d'auxiliaire de vie scolaire, de la MDPH et même de l'annoncer éventuellement aux enseignants, parce que ça peut normaliser de façon parfois tellement magistrale le trouble que l'on peut finalement s'arranger sans aucune aide extérieure autre que le traitement.
Et puis je remercie Sandrine, Sabrina, Yves, Raphaël qui ont été très nombreux à nous appeler au standard d'Europe 1. Voilà, j'espère que cette émission aura apporté des réponses. Docteur Val, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de cet essai, Les adultes hyperactifs, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci, à très bientôt j'espère. On se retrouve nous demain 2, 3, 4 dans Il n'y en a pas deux comme elle pour répondre à cette question. Comment coacher ses équipes avec, entre autres, le témoignage de Pascal Duprat, mais oui, l'entraîneur désormais mythique, qui a permis à Toulouse de rester en première division. Et il y a 10 jours de cela. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.